Seigneur, merci pour ta parole déjà déversée dans nos cœurs. C'est vrai, Seigneur, que tu nous soutiens. Seigneur, qui pourrait vivre sans ton soutien? Seigneur, nous te sommes profondément reconnaissants de cela. Et Seigneur, nous voulons, dans toutes ces choses, marcher dans tes voies. Nous voulons, Seigneur, accomplir les choses que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons nous émerveiller et nous voulons agir aussi, Seigneur, au son de ta voix. Amen. Pour le monde, je pense que d'entrer dans une église comme celle-ci, d'entrer dans un lieu où des gens adorent un Dieu qu'ils ne voient pas, qui n'est pas sur un écran, qui n'est pas visible par les sens physiques, je pense que ça doit faire partie de l'ordre du surréalisme. Une assemblée de gens un peu exaltés, pour pas dire fous, parce qu'on est poli, une assemblée de gens qui sont assis là et qui chantent à un Dieu qui est, entre guillemets, absent. Ça doit faire bizarre. Mais si je vous posais la question, mais qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi est-ce que vous êtes là, finalement, ce matin? À cause de quoi? Vous me diriez, j'ai lu la Bible et il y a quelque chose qui a fait que voilà, j'ai voulu venir à l'assemblée d'Hasbrook. Ou bien mes parents sont chrétiens, alors je suis là. Ça, c'est une bonne raison. Pour les enfants, c'est une bonne raison. Quelqu'un a prié pour moi, hein, c'est le témoignage d'Arlette, mais bon, c'est pendant des années, quelqu'un a prié pour moi. Mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'on a eu envie de venir, de se déplacer? On peut, et moi aussi, il y a des gens qui ont prié pour moi, 30 ans, longtemps. Et je peux penser que c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est pas autre chose. Et d'une certaine manière, même si on a des certitudes personnelles sur la façon dont Dieu a agi pour nous, je crois qu'il est bon de dire qu'il y a peut-être autre chose qu'on ne sait pas, qui s'est passé dans le spirituel. Quelque chose qui fait que nous avons été poussés à venir et à nous asseoir et peu à peu à rencontrer Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on vient ici, finalement, que on est chrétien. C'est parce que il y a quelque chose qui se passe à un moment et quelque chose qui continue, qui fait que peu à peu, on entre dans une nouvelle vie, une nouvelle dimension de vie que l'on ne connaissait pas auparavant. Donc certains disent, il y a ceci, cela qui s'est passé, on a fait ceci, cela pour moi. Et d'autres pourront dire, ben moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis là. N'est-ce pas? C'est le témoignage de plusieurs. Il y a une intervention qui est divine, nécessairement, puisque ça concerne Dieu, qui a fait que aujourd'hui je suis là, j'écoute et j'agis en fonction de ce que j'entends. Dieu m'a touché. On ne sait pas vraiment ce que ça signifie. J'ai un ami en Sibérie. Il lui est arrivé à peu près ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. C'est un étudiant, un jeune étudiant, sportif, très baraqué, en bonne santé. Il était là, il marchait sur ce trottoir. Et tout d'un coup, il est tombé. Les jambes cisaillées. Et il a entendu une voix qui lui a parlé. Et le Seigneur a commencé à le toucher. Aujourd'hui, il est pasteur de deux assemblées pentecôtistes en Sibérie. Famille athée, complètement athée, lui-même pas d'intérêt particulier pour la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne souhaite pas à ce qu'on trouve une réponse finalement à cette question, si ce n'est que derrière soit nos certitudes, soit nos interrogations, il y a une certitude qui est au-dessus de tout cela, c'est que Dieu a agi. Dieu a fait quelque chose pour que, à un moment donné, nous prenions conscience d'un besoin. Parce que parfois on se plaint, n'est-ce pas? On est là, mais oui, mais pourtant je lui ai parlé de Dieu. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit cela. Il a entendu le message de l'Évangile. Et pourtant, il ne veut rien savoir, il ne change pas. Cette prière était pour lui, c'est sûr, mais il n'a rien entendu. Alors, ça signifie qu'il y a un problème dans la conscience de l'homme. C'est-à-dire que il ne suffit pas juste de donner des paroles de conviction pour me convaincre. Moi-même, j'étais sur les bancs de l'église jusqu'à l'adolescence. J'ai entendu des messages de toutes sortes. Mais je pense que ça faisait à peu près autant d'effet que lorsqu'on envoie une balle sur un mur. Lorsque j'étais plus jeune, oui, à 8 ans, 9 ans, là, j'ai pu vraiment donner ma vie au Seigneur. Mais après, ça n'avait plus d'effet. Dans ma conscience, il y avait quelque chose qui faisait que je n'avais absolument pas envie de Dieu. Je n'éprouvais absolument pas le besoin de Dieu. Il n'y a rien de ce que j'entendais qui m'intéressait. Et pourtant, un jour, quelque chose, alors je pourrais vous citer plein de circonstances dans ma vie qui ont montré que Dieu agissait et continuait à s'occuper de moi, mais un jour, dans ma conscience, il y a quelque chose qui a fait que j'avais envie, que j'avais besoin, qu'il fallait que ça se fasse. Et si Brigitte est là, elle est là, mais si elle pourrait vous le dire elle-même, le jour où elle a entendu une prédication et que quelqu'un est venu lui parler après le culte et lui a dit, mais voilà, exposé le plan du salut. Elle en avait presque assez. Elle avait, c'était juste, mais tais-toi maintenant, dis-moi juste ce qu'il faut faire. Parce que elle avait envie. Il y avait le besoin urgent que ça se passe. Donc Dieu fait quelque chose afin de nous rendre capables de le rechercher d'une certaine manière, de le vouloir, de courir après lui. C'est un besoin qui tout d'un coup surgit dans notre cœur comme une naissance. Et moi, à titre personnel, je mets la nouvelle naissance là. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se développe. Ce n'est pas quelque chose qui était présent, sous-jacent depuis la naissance et qui, voilà, tout d'un coup surgit parce que les circonstances sont favorables. Hein, on a mis de l'engrais et tout. Ça, c'est comme ça que ça marche dans le jardin. Les champignons, par exemple, on sait qu'on peut faire pousser tous les champignons partout sur toute la planète. Il suffit que les conditions du terrain soient adaptées à la poussée de ces champignons-là. Parce que les spores de tous les champignons s'envolent, sont tellement légers qu'ils s'envolent partout sur toute la planète, y compris dans le désert. Mais évidemment, ça ne pousse pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais il ne s'agit pas de la même chose pour la nouvelle naissance. Ce n'est pas que tout est présent dans l'homme au départ. Et qu'il suffit, avec grande intelligence, avec beaucoup de discernement, et avec la capacité de quelques intellectuels, de dire les bonnes choses, et alors tout d'un coup on va faire apparaître l'envie. La première pousse de la nouvelle naissance, non. Dieu est créateur. Et ce qu'il fait en nous, c'est qu'il agit pour déposer en nous le besoin de le rechercher. Quand nous avons en nous ce besoin de le rechercher, Dieu a besoin de nous rendre capables de nous présenter devant lui. Il a besoin de nous rendre capables de rester en sa présence. Lorsque nous sommes dans sa présence, Dieu a besoin de nous rendre capables de le connaître. Et lorsque nous sommes dans sa présence, et qu'il nous rend capable de le connaître. Dieu veut nous révéler que nous sommes juste comme lui-même est, à son image. Et ça, c'est l'œuvre du salut qu'il accomplit dans l'homme. Alors, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller ce matin, mais on va déjà commencer par le premier point. Dieu nous rend capable de nous présenter ou d'être, de nous tenir dans sa présence. N'est-ce pas? C'est le premier pas. D'une façon ou d'une autre, il faut pouvoir nous approcher de Dieu pour pouvoir le connaître. Alors, le tout début du salut, c'est déjà de reconnaître que la déchéance de l'homme, et dans ce cas la mienne, est totale. Que je suis vraiment indécrottable, si je peux employer le terme, que je n'arrive pas à me nettoyer moi-même de tout ce qui me colle, de mon péché, que mon échec en tant qu'homme, en tant que personne, quel que soit le contexte dans lequel je me trouve, que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit le travail, eh bien, je suis un échec. Je suis profondément un échec. Alors il y a des gens, c'est plus difficile que pour d'autres de sentir cela. Pour moi, c'était facile. Hein, je n'ai pas dépassé la sixième. Donc pour moi, c'était facile de me dire, tu es un échec. Mais vous savez, une des merveilles de la nouvelle naissance, c'est que Dieu restaure. Et il peut restaurer bien au-delà de ce qu'on imagine. Je ne suis pas resté avec le niveau de la sixième, j'ai pu faire des études après. Mais à l'époque, c'était impossible. Mais lorsque Dieu est venu, il a restauré les capacités que Satan m'avait dérobées. C'est ça, le début de la nouvelle naissance. Réaliser avec sincérité et avec profondeur l'échec de sa propre vie. La déchéance, la capacité à être ou à devenir un meurtrier, la capacité à savoir que nous pourrions agir de façon complètement débridée s'il n'y avait pas l'éducation, s'il n'y avait pas toutes ces choses que la société a mis en place pour nous garder sur des rails à peu près droits, pour que la société n'aille pas dans tous les sens. Ça, c'est la première des choses. Et en réalisant ça, on réalise alors à quel point nous sommes loin de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de savoir est-ce que j'ai une connaissance biographique de Dieu. C'est une question d'honnêteté personnelle. Et alors, on réalise à quel point on est séparé de Dieu. La distance énorme entre Dieu et moi, qui n'est pas la distance kilométrique, loin de là, mais qui est la différence de nature. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus, c'est pourquoi ? Il l'a ressuscité parce qu'il trouvait en Christ les caractéristiques de la perfection. C'est ça qui est dit. Il n'y avait rien qui pouvait le retenir dans la mort. Parce que Christ était parfait. C'est pour ça que Dieu l'a ressuscité. À cause de ce qu'il a vu, et il l'a ressuscité. Et en même temps que Christ ressuscitait l'homme, en même temps que Christ était ressuscité et venait à la vie, l'homme était banni, complètement écarté de Dieu, condamné éternellement. Mais en même temps, et c'est là la merveille de la résurrection, en même temps que Christ était ressuscité, il a pris avec lui l'humanité. Et grâce à cela, nous sommes restaurés dans la présence de Dieu. Vous comprenez l'échange qui s'est fait? C'est-à-dire que d'un côté, nous étions condamnés à cause de la perfection de Christ. Mais grâce à cette perfection, lorsque nous sommes en Christ, eh bien nous participons à la perfection de Christ, et c'est cela qui nous permet d'apparaître dans la présence de Dieu. C'est clair? Vous pouvez écouter la cassette, hein, si c'est... N'est-ce pas? Cette perfection, c'est celle que Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden. Alors le verset qui illustre ça, c'est Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Voilà. Donc, d'un côté, nous étions complètement rejetés et condamnés à cause de nos offenses. Mais en Christ, en lui, nous avons été rendus à la vie. Et il nous a été fait grâce pour nos offenses. Rendez-vous compte, si ce n'était pas le cas. Si naissait en nous l'attraction pour Dieu, et qu'arriver auprès de Dieu, il n'y avait pas cette possibilité. On a parlé de paix ce matin, c'est ça la paix avec Dieu. C'est s'il n'y avait pas cette possibilité d'être pardonné, d'avoir grâce, d'avoir reçu grâce pour nos offenses. Ça voudrait dire que Dieu nous attire, juste pour nous condamner, juste pour nous anéantir. Mais non, en Christ, il nous rend capables de nous tenir en sa présence, afin de nous faire grâce. Lorsque cela apparaît dans nos vies, lorsque nous réalisons que Dieu pardonne nos péchés, je ne sais pas si on réalise vraiment ce que signifie Dieu pardonne nos péchés. Nous avons des façons de pardonner parfois qui sont bizarres. Hein ? Oui, je pardonne, mais j'oublie pas. Avec une sorte de menace derrière, faut pas que ça recommence. Alors, je suis tout à fait d'accord que dans certaines situations graves, il y a des restes, il y a des souffrances profondes, des traces qui restent. Et je ne parle pas de ça. Je parle de situations où communément on est énervé à cause de quelque chose, alors on dit « Ah, je pardonne !» Mais réellement, on n'a pas pardonné. Pour le reste, c'est beaucoup plus profond et c'est d'un autre ordre. Mais lorsque nous sommes restaurés dans la présence de Dieu, c'est toute notre mentalité qui commence à changer. En tout cas, c'est ça qui doit se passer. C'est-à-dire que notre volonté se transforme. Les affections qu'on avait pour certaines choses, eh bien, diminuent, voire disparaissent complètement. Et l'affection pour Dieu, qui n'existait pas, la volonté de lire la Bible, d'entendre parler de Dieu, de rechercher même sur Internet des messages ou des prédications, je ne sais pas, toute cette activité-là pour Dieu, eh bien, commence à s'installer dans la vie des personnes. Et peu à peu, nos centres d'intérêt, nos démarches, nos actions s'orientent vers les choses qui concernent le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu appelle marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est un passage dans Romains qui m'a marqué depuis le début de ma marche avec le Seigneur. Marcher en nouveauté de vie. Ça explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas assis, on n'est pas statique. on avance, et au fur et à mesure que la vie avance, eh bien, nous progressons également dans les choses de Dieu. Il y a quelque chose qui est très frappant chez les nouveaux convertis. C'est que parfois, et c'est vraiment étonnant, on a l'impression quand on les entend qu'ils connaissent toute la théologie. Moi, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais on a l'impression qu'ils savent tout. Des choses que vous avez mis des années, peut-être à apprendre, à comprendre. Et on s'aperçoit que, et finalement, quand j'y pense, c'était pareil pour moi, on s'aperçoit que ils savent tout. D'où ça vient? En fait, c'est pas qu'ils savent tout. Ils sont des bébés. Ils savent rien. Mais c'est intuitivement, par l'Esprit de Dieu, se déverse en eux des rudiments de théologie, on va dire, c'est, si on ne veut pas prendre des mots compliqués, mais se déverse en eux la connaissance de Dieu sur les choses importantes, sur les choses fondamentales, sur les choses vitales pour le croyant. C'est reçu. Ils n'en sont peut-être même pas conscients, mais ça s'entend dans le discours, ça se remarque. Évidemment, lorsqu'il s'agit de chercher dans la parole de Dieu les versets qui correspondent à ce qu'ils croient, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas la connaissance livresque. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur a mis dedans. Ce que le Seigneur a fait. Et ça me réjouit, mais au-delà de tout. Certaines personnes sont des concordances vivantes et ils sont secs à l'intérieur. D'autres ne savent pas donner le verset qui correspond à ce qu'ils croient, mais ils sont remplis de Dieu. Qu'est-ce qui compte, finalement? Qu'est-ce qui compte? Nous marchons en nouveauté de vie. Nous commençons à comprendre Dieu intuitivement. Il y a une sorte de sens spirituel qui naît là et qui donne des capacités nouvelles. En tout cas, si elles ne sont pas nouvelles, elles sont complètement réorientées vers le Seigneur. Parce qu'avant ça, intuitivement, on était très au courant des choses du malin. N'est-ce pas? Tous les gens qui sont passés de la mort à la vie le savent. On était très au courant des choses que fait le malin. Vous savez quoi? Le malin dans une vie, il peut convaincre quelqu'un de signer un pacte avec lui, réellement, de signer un pacte avec lui sans jamais que cette personne n'ait été enseignée sur Satan. Ça aussi, c'est intuitif. D'accord? Et Dieu renverse complètement la situation. C'est comme si finalement notre volonté s'alignait peu à peu sur celle de Dieu. C'est ça, marcher en nouveauté de vie, c'est mettre tout en œuvre avec le Saint-Esprit pour que notre volonté et la sienne ne fassent plus qu'une seule. C'est ça que vous avez envie, frères et sœurs. Souvent on dit, mais quelle est la volonté de Dieu? Alors je sais, on pense à des choses particulières lorsqu'on dit ça parfois, mais bien souvent, le Seigneur attend de nous que nous soyons, que nous vivions la paix qu'il nous donne, que nous la vivions consciemment, et que nous ne soyons pas angoissés pour le lendemain. Voilà, donc c'est tout notre univers mental qui change. Et Et aussi, on commence à toucher quelque chose qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, quelque chose qu'on découvre. C'est la pureté. La pureté de Dieu. Vous savez, la pureté est un grand choc pour le monde. La pureté, quelque part, provoque du rejet. Ça provoque les deux, soit de l'admiration, soit du rejet total. Parce que quelqu'un qui marche dans l'honnêteté, dans l'innocence et dans la pureté de cœur, est une outrage pour certaines façons de faire dans le monde. N'est-ce pas? Lorsque on vous dit, eh bien, écoute, le téléphone sonne et qu'on vous dit, réponds que je ne suis pas là. Et qu'on dit, non, je ne répondrai pas que tu n'es pas là, je répondrai que tu es là et que tu ne veux pas parler. C'est une outrage pour le monde. Les gens se sentent blessés à cause de ça. Maltraités à cause de ça. Parce que on a juste dit une vérité, ça fait des remous absolument incroyables. Je pourrais vous raconter des histoires là-dessus. Donc, lorsque nous sommes ressuscités avec Christ, Dieu alors nous permet d'être dans sa présence, nous permet de marcher en nouveauté de vie. Et même, Dieu ne nous considère plus, et d'ailleurs c'est pour ça que nous pouvons rester dans sa présence comme des pécheurs, mais comme des saints. Voilà. Donc, les saints, ce n'est pas seulement sur les calendriers, c'est dans les assemblées qui ont réalisé que la résurrection de Christ les sanctifie réellement. Si nous sommes saints, si nous sommes pardonnés, si Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs, alors il y a une question à laquelle il faut répondre. Pourquoi continuons-nous à vivre sous le fardeau de la culpabilité? Pourquoi tant de croyants se débattent parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas pardonnés, parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser le pardon de Dieu dans leur vie? Moi, je n'ai pas la réponse. Là, c'est une question que je vous pose à tous individuellement. Les réponses peuvent être multiples. Mais l'enfant de Dieu qui est passé de la mort à la vie, qui marche en nouveauté de vie, et pardonné. Alors si vous ne le saviez pas jusque-là, je vous le dis, dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes pardonné maintenant, si vous avez demandé à Dieu de vous pardonner vos péchés. Il vous a fait grâce. Tout ce que vous avez fait, les choses les plus terribles, qui ont peut-être eu des conséquences graves pour d'autres, Dieu vous les a pardonnés. Et Dieu ne revient pas sur un pardon. Ça, c'est la qualité de l'homme. Ah oui, mais la dernière fois, et alors on est capable de ressortir toute la série des trucs qui n'ont pas marché. Ceci, cela. Il n'y a qu'à voir les couples parfois. Oui, mais tu m'as fait ça, et là, il y a 3 mois, alors j'ai dit ça, et toi, tu m'as répondu ça. C'est la catastrophe. Dieu nous pardonne si nous pardonnons les offenses. Dieu nous pardonne nos offenses si nous pardonnons les offenses qui nous ont été faites. Dieu pardonne et ne revient pas sur ce qui a été pardonné. Il n'en remet pas une louche. Et frères et sœurs, s'il y a quelque chose que le croyant doit apprendre de Dieu, c'est bien cette rectitude dans le jugement, cette capacité non seulement à pardonner, mais ensuite à retrouver une relation avec la personne nouvelle, c'est-à-dire où l'ombre même de ce qui a causé le problème disparaît. Que dans le regard, ça n'apparaisse pas. Nulle part. Que ce soit oublié. Et que ce soit le début, à nouveau, de la vie. Parce que la vie s'arrête lorsque le pardon n'est pas donné. Nous recevons, je l'ai dit avant, la vie de Christ en nous. Ce n'est pas le développement de quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Et c'est à ce moment-là que nous devenons ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons, qui nous restaure toutes nos potentialités. Dieu ne fait pas de nous des êtres surnaturels. Il ne fait pas de nous... Voilà, il ne nous remplit pas, il ne fait pas quelque chose de miraculeux pour nous donner des capacités particulières que nous n'avons pas. Il peut le faire, il l'a fait. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui rend capable le développement de la vie nouvelle. Parmi les potentialités que Dieu nous restitue, il y a les affects, la morale, les émotions, toutes ces choses qui ont été complètement déformées par le monde, Dieu nous les restitue en neuf. Des fois, il peut aussi agir dans notre intelligence. En ce qui me concerne, le Seigneur m'a montré que le malin m'avait dérobé quelque chose. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu dépasser la sixième lorsque j'étais en scolarité. Et même j'ai redoublé le CM2. Rendez-vous compte. Le cancre. Le mauvais garçon. Il ne travaillait pas bien à l'école. Alors, il y avait tout ça. Et en même temps, j'avais un message à la maison qui était l'amour de Dieu. Eh bien, très tôt, j'ai cru que Dieu ne m'aimait pas. Parce que là où tout le monde réussissait, là où mes amis d'école du dimanche sont devenus médecins, chirurgiens, architectes, ingénieurs, eh bien, moi, je suis devenu balayeur de rue. C'est pas grave. Il faut des gens pour balayer les rues, n'est-ce pas? Sauf que j'avais cette certitude en moi que j'étais dans une prison pendant des années. Et lorsque le Seigneur m'a touché, il m'a montré que Satan m'avait dérobé quelque chose et qu'il allait me le restituer. Ce qu'il a fait. Et ça, c'est des choses que le Seigneur peut faire dans les vies des personnes. Si nous avons été blessés par Satan, il va intervenir pour régler la situation. Dieu, je reviens à la croix, lorsque Dieu a rejeté les hommes, c'est là qu'il a élevé Christ, n'est-ce pas? À la croix. Mais lorsque l'homme se rejette lui-même, lorsqu'il accepte cette déchéance, lorsqu'il accepte qu'il est un échec, eh bien lui aussi, il élève Christ. Et c'est pour ça que Dieu peut agir dans nos vies. Vous comprenez? C'est qu'il y a un parallélisme dans les choses. C'est que Dieu élève Christ à la croix. L'homme, en s'abaissant, élève également Christ. Et alors l'entrée est possible. Dieu a toujours fait ce travail. L'homme rechigne à s'abaisser. L'homme ne veut pas accepter qu'il est un échec complet et qu'il a besoin de recevoir en lui une chose complètement nouvelle. Et donc, c'est ce parallélisme qui fait que Christ élevé par Dieu et Christ élevé par l'homme fait que l'homme peut se retrouver auprès de Dieu en Christ. Dire qu'il y a des gens qui pensent que la Bible c'est une fable. Enfin, le gars qui l'a écrit alors c'est sacrément fort. Ah oui, l'aspect de la loi. Ça, c'est un point important. Combien de fois on entend dire, oui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et c'est vrai. C'est vrai à 100%. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Lorsque les hommes et des femmes s'assiedent dans une église et qu'ils entendent parler de Dieu, qu'ils entendent un message qui est prêché de la Bible, alors il y a quelque chose qui vient les choquer dans leur cœur. Il y a quelque chose qui vient les agresser dans leur cœur. Et ils se disent que la loi qu'on leur enseigne, cette loi dont la Bible parle, elle est insoutenable. On ne peut pas la vivre. C'est fait pour nous restreindre. C'est fait pour nous mettre dans un carcan. Et lorsque ces mêmes personnes reçoivent le don de l'Esprit de Dieu, alors, comme je disais avant, c'est tout l'univers qui change, toute la volonté qui change, toute la compréhension des choses qui change. Eh bien, la loi devient juste le normal du quotidien. Une douce façon de vivre qui n'est pas difficile à supporter et qui prouve que vous avez vécu la grâce de Dieu. Parce que il y a les 10 commandements, mais le serment sur la montagne est bien plus difficile à tenir que les 10 commandements. Si vous ne vivez pas la grâce de Dieu, vous ne vivrez pas ni les 10 commandements, ni le serment sur la montagne. Et quelles que soient les injonctions bibliques, vous trouverez que ça vient choquer votre petit cœur sensible. Je n'ai jamais arrivé à la fin de ce que j'ai prévu. Mais, comme je vous l'ai dit, Christ élevé par Dieu, l'homme élevé par Dieu par son abaissement personnel, fait que nous rencontrons Dieu en Christ. Mais si ça n'est pas fait, si ça n'existe pas dans une vie, alors c'est complètement irréaliste de penser qu'on va pouvoir connaître quelque chose de Dieu. Même si on apprend la biographie de Dieu. N'est-ce pas? Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec quelqu'un qui me disait « Ma relation avec Dieu, c'est comme celle d'un orphelin qui a perdu son père, mais à qui on a dit « Il y a un livre qui parle de ton père. Va voir ce qu'il y a marqué dedans. Ça va t'apprendre des choses sur lui. » Et il a dit « Voilà ma relation avec Dieu. J'ai l'impression d'être orphelin de père. Je sais des choses sur lui. Je sais ce qu'on me dit de lui. Je connais le témoignage qu'on m'apporte de lui. Mais je n'ai pas l'expérience d'un père dans ma vie. » C'est merveilleux de s'en rendre compte, mais c'est une tragédie lorsque derrière il n'y a pas la solution qui est donnée. Rendez-vous compte. Je lis la parole de Dieu, mais je suis un orphelin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu autrement que par l'action du Saint-Esprit dans une vie. Il n'y a pas une seule religion, quelle qu'elle soit, y compris la religion chrétienne, qui va donner des informations suffisantes pour faire de nous des enfants de Dieu vivants. Il faut l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans une vie. Il faut que l'homme puisse être, par le Saint-Esprit, uni à Christ pour pouvoir être présenté au Père et là, recevoir vraiment la connaissance de Dieu. On peut connaître beaucoup de choses par l'intellect. On peut connaître même toutes les théologies, mais ça ne suffira pas à nous amener dans cette position qui est la position de paix. C'est la position ultime. La paix, c'est celle qui règle tout. Parce que lorsque la base de notre vie, c'est la paix, c'est-à-dire non pas le fait de se sentir bien, mais en paix avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'a rien à nous reprocher parce que nous sommes en Christ, là, nous pouvons tout recevoir de lui. Et c'est là que nous pouvons réellement entrer dans ce qui est la connaissance de Dieu. Si vous lisez les Épîtres, vous verrez que c'est souvent un thème qui revient chez l'apôtre Paul. Des choses que l'homme ne connaît pas. Ça ne monte pas. C'est pas là que ça ne monte pas. Ça ne monte pas dans le cœur. On connaît les choses là, mais ça ne va pas au cœur. C'est le problème des Corinthiens. Curieusement, c'était aussi le problème d'un des disciples, Philippe. Rappelez-vous, il a dit, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Cela me suffit. » Et Jésus lui dit quoi? « Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas vu le Père. » Mais Jésus savait qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne pour leur remettre en mémoire et à l'esprit toutes les situations et toutes les paroles qu'il leur a dites pendant son ministère. Ils n'ont finalement pas compris grand-chose de Jésus-Christ et de l'œuvre de la rédemption alors que Jésus était sur la terre. Mais tout est venu se mettre en place lorsqu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour rendre vivant. Le Saint-Esprit, on dit du Saint-Esprit, c'est un esprit vivifiant qui donne la vie aux choses. Eh bien, ces choses qu'ils avaient entendues, qu'ils avaient gardées, qu'ils avaient dans leur cœur, des bons souvenirs avec Jésus-Christ, tout ça est venu prendre un sens pour le salut des hommes lorsque le Saint-Esprit est venu. C'est ce que Jésus dit dans Jean 14, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jésus ne se faisait pas d'illusions. C'est pour ça que parfois son discours, il parle ou il répond, on a l'impression qu'il répond à côté, mais non, il répond parce que il annonce quelque chose dans la temporalité de l'homme et cela a un écho dans la temporalité de Dieu qui ensuite va agir ou qui agit déjà finalement par le Saint-Esprit. Ah, il y a des choses merveilleuses là derrière, mais bon. Je ne vais pas m'étendre. Je vais devoir m'arrêter. Je vais juste conclure avec ça. L'Esprit de Dieu dévoile l'enseignement de Christ à l'esprit des hommes. Vous savez que dans les évangiles, sans arrêt, il est dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Eh bien, l'Esprit de Dieu est venu pour enlever ce voile, pour enlever le voile sur les oreilles et sur les yeux, afin que les hommes puissent comprendre dans leur cœur la parole de Dieu. C'est toujours encore le témoignage de Brigitte. Lorsqu'elle lisait la Bible, parce qu'à une époque, elle lisait la Bible parce qu'on pensait que c'était bien de lire la Bible. Voilà. Mais on n'appartenait pas au Seigneur. Mais lorsque elle a confié sa vie à Dieu, du jour au lendemain, les choses qu'elle lisait ont pris vie. Ce qu'elle ne comprenait pas est devenu vivant. C'est merveilleux. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais vraiment souligner que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption, ce n'est pas quelque chose qui se fait accidentellement dans les vies des uns et des autres. Il y a la volonté de Dieu qui intervient dans les vies. Il y a besoin de la réponse de l'homme. Christ a été élevé à la croix. Il y a besoin de la réponse de l'homme qui dit à Dieu, franchement et honnêtement, je suis un échec. Je le crois sincèrement du fond de mon cœur. Je suis incapable tout seul de faire une seule chose de bien. Et lorsque l'homme se dénie lui-même de cette façon-là, alors Christ est élevé aussi. Et en Christ, l'homme peut enfin se tenir dans la présence de Dieu afin d'être enseigné par lui, non seulement d'être enseigné par lui, mais aussi ensuite de pouvoir être un témoignage vivant de Dieu sur la terre auprès des hommes et des femmes qu'il nous appelle à côtoyer. Parce que la finalité, c'est ça. Le fond, c'est ça. C'est qu'étant enseigné, nous devenons comme lui. Et nous devenons ceux qui portent en eux le message du salut et qui le distribuent, sans se poser la question si ça va faire mouche ou pas, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord ? Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole qui est un puits sans fond. Merci, Seigneur, pour ton caractère qui est merveilleux. Seigneur, l'éternité ne nous permettra pas de faire le tour. Et Seigneur, nous réjouissons en toi, nous réjouissons de savoir, Seigneur, que nous pouvons nous tenir dans ta présence sans aucune culpabilité, que tu as pardonné définitivement. Et Seigneur, nous voulons être comme toi, y compris dans le pardon. Et nous voulons, Seigneur, d'un trait, pardonner profondément à ceux qui nous ont fait du mal, afin, Seigneur, que tu puisses continuer à travailler en nous et par nous. Amen.